16h03, bon lundi, bon début de semaine, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. Le Canadien débutera sa série de deuxième ronde face aux Sabres de Buffalo mercredi soir. On a eu de l'émotion en montagne russe au cours de la fin de semaine, mais malgré une performance presque gênante du Canadien lors du match numéro 7 hier, le karma a rattrapé le Lightning de Tampa Bay. Ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux pour la grande région de Québec. Vous dire que les averses sont derrière nous. Trois petits points pour aujourd'hui, parce que demain, c'est généralement nuageux. Avec des averses en après-midi, il y a même des risques d'orage. 5 à 10 mm d'eau et des vents en rafale à 70 km/h, maximum 16 degrés. De la pluie mercredi, maximum de 8. Percée de soleil peut-être pour jeudi, mais 60% de probabilité d'averse avec un maximum de 12 degrés. Audrey, dans la circulation, en plein cœur de la première heure de pointe de la semaine.
Le pire est vraiment sur la capitale en ce moment, direction est. Ça se passe surtout, je vous dirais, dans le coin de Robert Bourassa, direction ouest. C'est entre Henri Bourassa et Robert Bourassa que ça se passe. Si vous êtes sur Charest est, c'est à la hauteur de Robert Bourassa. Aussi, Henri IV sud. Ça va se passer entre chemin Sainte-Foy, je vous dirais, et l'entrée des ponts. Duplessis, même chose. Et pour ce qui est de la rive sud, ça va quand même bien jusqu'à maintenant. Le seul ralentissement, c'est sur la 20 direction ouest, dans le coin de chemin des îles. Peut-être monter dans le nord, là, dans le coin de Shannon, devant la base militaire, semble y avoir un incident en ce moment qui crée un ralentissement dans les deux directions sur route de la Bravoure et aux routes de Fossambeau, dans le coin de la Jacques-Cartier, où c'est encore au ralenti. Autre chose, 88-971-102 texto.
Ça me dépasse toujours un peu quand au Canada ou au Québec, on fait des manifestations où ouvertement on va demander la mort d'un politicien. On a vu beaucoup de cordes du pendu là, ouais. Pendant l'époque de la pandémie. On sait qu'il y a beaucoup de fils qui se sont touchés et beaucoup de cervelets se sont mêlés pour ne plus jamais se démêler. Mais en 2026, la bêtise humaine continue de me surprendre. Parce qu'il y a des mouvements syndicaux au Québec en 2026 qui défendent l'utilisation de la guillotine pendant une manif. Ben quoi, on a le douet.
Si vous avez manqué les épisodes précédents, c'est que dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs, il y a eu une manifestation à Montréal. Donc, c'est la journée de samedi. Il y avait plusieurs grands syndicats qui étaient sur place. Puis, on profite de ce moment-là pour interpeller les politiciens. Par contre, ce qui a retenu l'attention, c'est un groupe de syndiqués qui avait fait une tête de papier mâché pour une poupée. Frisée blonde, teint foncé, avec des lunettes noires. Et ils ont passé la dite poupée à la guillotine avant de jouer au soccer avec la tête.
Ouais.
Si vous faites la liste de toutes les personnalités publiques qui ont ce look-là, il y en a juste un. C'est le ministre du Travail, Jean Boulay, qui semblait être visé par cette illustration-là.
C'était la manif des travailleurs en fin de semaine. Donc,
un point commun. Ouais.
Un plus un, ça fait encore deux. Hein?
Ça a bien sûr été dénoncé parce qu'il y a une violence qui vient derrière la guillotine. Tranche le cou de quelqu'un, même de manière genre illustrée comme ça. Tranche tourbant le cou de quelqu'un.
La guillotine est un instrument de mort qui ne sert qu'à une chose, tuer quelqu'un en lui coupant la tête.
Oui, il n'y a pas d'autre usage pour une guillotine de ce type-là. Les syndicats qui se sont dissociés de l'action qu'elle qualifie d'incident isolé.
Sans le dénoncer, bande de couillons.
Puis, il y a différents politiciens de toute allégeance qui sont sortis en disant « Voyons, ça n'a pas de bon sens de faire une image comme celle-là. » Et c'est là qu'entre en compte l'alliance responsable du bricolage en question qui a été utilisée. L'alliance ouvrière.
Ça, c'est eux autres qui, pendant de nombreuses heures, ont bâti une guillotine.
Exactement. Et une tête en papier mâché.
Les autres, c'est quoi leur job de base?
C'est
de
c'est un syndicat.
C'est d'être créatif pour
C'est un syndicat qui essaie de passer des messages. Et eux ont fait une sortie cet après-midi en défendant leur mise en scène, assurant n'avoir jamais confirmé que l'effigie représentait le ministre du Travail, Jean Boulay.
OK, il n'y a pas d'excuses.
On veut pas dire que c'était lui. C'était générique.
C'est pas la première fois qu'un syndicat au Québec prend le monde pour des totons.
Mais t'aimes-tu la poignée que j'ai dans le dos?
Mais le mépris de cette déclaration-là, ça va très loin. Là.
C'est incroyable. Ah, c'est les médias, les commentateurs qui ont fait le lien. Là. Cette tête-là représentait un membre de l'élite générique Il semble que les politiciens se soient sentis visés.
Puis, membre de l'élite, tu parles de quoi, là? Je veux dire, juste le nom, l'Alliance ouvrière. Penses-tu qu'on est encore dans les mines de charbon en 1940? Bande de clowns. Oser comparer le statut actuel des travailleurs à des conditions misérables où nos ancêtres se tuaient à l'ouvrage. Juste pour ça, vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte aussi de prendre les Québécois pour des hosties de totons.
Rendu là, il y a...
C'est pas le ministre. Ben non. C'est
mais
pas...
la liberté d'expression...
C'est pas passe-montagne, là.
Mais rendu là, il aurait dû ne pas sortir. Tu sais, t'étais mieux gardé...
Ouais, mais de toute façon, on aurait su que c'était eux. Parce que plus tôt cet après-midi, on a su que le SPVM avait ouvert une enquête. Oui. On sait pas si c'est parce qu'il y a une plainte qui avait été portée ou pas. Puis un petit peu plus tôt aujourd'hui, tu avais le vice-premier ministre Yann Lafrenière, qui est aussi ministre de la Sécurité publique, qui était sorti en appui à son collègue, le ministre du Travail, en disant que ça avait pas de bon sens, qu'il l'appuyait peu importe ce qu'il avait l'intention de faire. Puis on ne sait pas si une plainte vient de ce côté-là. Par contre, il y avait beaucoup de monde sur place. Il y en a qui ont été choqués, il y en a d'autres qui ont trouvé ça drôle.
C'est déplorable de voir à quel point des mouvements essentiels qui ont fait avancer le Québec sont en train de le tuer à petit feu, à grands coups d'ignorance, de saloperie et de bien-pensance. Des gens qui font partie de l'élite en passant, là. Des pas représentants de centrales syndicales qui ont des grosses jobs pour le gouvernement de Carney, là, il y en a. Des grosses têtes syndicales qui vont à Dubaï pendant que leurs membres sont en moyen de pression, il y en a. Des grandes têtes syndicales qui, un mercredi midi, s'en vont se saouler la gueule au steakhouse puis qui reprennent le pick-up de l'année après, il y en a. Vous faites partie de la portion la plus crasseuse des élites que vous dénoncez. Fait que la guillotine est peut-être un petit peu pour vous autres aussi, là. C'est pas le chat qui mange chaqueux, c'est l'élite qui coupe sa propre tête. Le seul problème, c'est que votre poupée a les cheveux frisés puis des lunettes comme le ministre du Travail, la journée du travail. Arrêtez d'être cave.
Merci à celui qui m'a corrigé. L'Alliance ouvrière, ce n'est pas un syndicat, c'est une organisation à tendance politique. Et quand on va sur leurs médias sociaux, ça dit qu'ils visent à constituer la classe ouvrière en force politique indépendante. Nous organisons et mobilisons la classe ouvrière dans les milieux de travail et les autres sphères de la vie sociale afin de récupérer l'outil de la grève politique. Les autres syndicats qui étaient sur place, ça vous tentait pas d'intervenir?
Clairement pas, parce que les gens autour de la scène de guillotine avaient énormément de plaisir. Ouais. Puis, c'est le principe... Ben, en fait, vous avez vu John Cooper, le coach du Lightning, que ses joueurs chiolent après les arbitres puis que ça donne des coups salauds. D'ailleurs, il y en a eu un autre hier. Là. Il y en a un qui a vargé direct sur le poignet de Noah Dobson. Noah Dobson qui revient d'une blessure puis tout le monde sait où. Là. Fait que des coups de cochon. Tu sais, quand un coach dit « Ah, on joue sur la ligne et c'est bien correct. » Ce qu'il vous dit, c'est ce genre de saloperie-là, ça fait partie de ma game. C'est pour ça que je dis que le karma a rattrapé un petit peu le Lightning. Ben, les syndicats, c'est la même chose. Ce genre de crasse-là et de merde-là, dans le fond, ils trouvent ça bien drôle. Ça fait réagir, ça fait jaser, ça choque. Ils sont super contents. Ils prennent les Québécois pour des ticlins. Pas compliqué.
Puis les justifications, c'est du n'importe quoi.
Ah, regarde, c'est gênant. C'est gênant.
C'est, disons que ça incite pas personne à s'investir dans une carrière politique ou dans une carrière publique. Ça fait comme deux exemples aujourd'hui où on voit que être dans l'espace public, c'est être obligé de subir les foudres de gens qui sont reculés par le tonnerre.
Ça vaut-tu la peine de te faire chier parce que t'as le goût de faire avancer les choses dans la vie?
Non.
Ça me l'avait
travaille pour toi. Ouais.
Puis il y a une certaine limite. T'sais. Tu peux amener le monde à de la sympathie puis de la compassion si t'expliques comme il faut tes arguments. Mais avec une guillotine puis une poupée bout de chou de Jean Boulet, t'auras pas la compassion de personne. Vous avez de l'air d'une gang de petits merdeux qui rient au loup alors que les têtes syndicales, je vais le répéter, vous faites partie des élites les plus crasseuses du Québec.
Non, effectivement. Tant qu'à parler des droits de travailleurs, on l'a vu à certains moments que des travailleurs se trouvaient mal représentés par leur syndicat puis qu'ils n'avaient pas leur mot à dire. Peut-être que le problème se trouve aussi ailleurs. par rapport à ce que vous dénoncez. D'ailleurs, demain, c'est le début des travaux à l'Assemblée nationale. On avait prorogé tout ça alors qu'on terminait la course à la chefferie de la CAQ. Fait qu'on a vu en masse la première ministre Christine Fréchette faire des annonces, mais dans ce temps-là, elle a le plancher pour elle. Elle peut choisir la manière de dire et de faire les choses. Ce sera intéressant de voir avec les oppositions, alors que là, on multiplie les annonces de candidature, on multiplie de plus en plus aussi du côté des oppositions des annonces de voici ce qu'on va retrouver dans notre programme, comme si c'était fait prendre de court un peu parce que la CAQ a annoncé au courant des dernières semaines, fait que ça va commencer à brasser demain. La première ministre, qui, je vous le rappelle, aujourd'hui a donné son feu vert pour le démarrage dès ce samedi 9 mai de le fameux DSN, de dossier de santé numérique, dans deux CIUS de la province. Ça aussi, ça va être surveillé de très, très près. Et qu'elle l'endosse en disant, vous allez voir, ce ne sera pas un autre saclic. Si ça ne va pas bien, c'est elle qui va devoir payer le prix d'avoir donné ce feu vert-là.
Hey, juste une question de même. Est-ce que le ministre Boulet a des enfants?
Je sais pas.
Mettons qu'il y en a, là.
Ouais.
Hey, papa, pourquoi il y a des gens à télévision qui font semblant de te couper la tête?
Oh, Seigneur!
On est-tu?
Ça
on,
me donne mal au cœur.
Ils vont-tu venir asseoir chez nous? Ils veulent-tu te tuer pour vrai? Nous autres, on est-tu en danger?
Qu'est-ce que le monde réfléchit pas, hein?
C'est terrible. C'est terrible.
Ça me fait capoter.
C'est quoi cette alliance de merde là, qu'on les dénonce encore?
L'alliance ouvrière?
Honte à vous autres, l'alliance ouvrière.
On a des textos qui sont rentrés pour nous dire qu'ils ont quitté une certaine job à cause de ce syndicat.
Ben, écoute.
Je comprends.
Je comprends très bien. Je veux dire, les syndicats fonctionnent comme une mafia. T'es avec eux autres ou tu fais pas partie de la gang. Puis pendant ce temps-là, c'est les têtes syndicales qui se tapent les tournées internationales, puis ça parle aux ministres avec du mépris puis de la condescendance. Ils sont devenus tout ce qu'ils ont dénoncé pendant leur vie. Ceux qui chiolaient contre les boomers sont devenus pires que les boomers, et ceux qui chiolaient contre les conditions puis les maudits patrons, bien, sont devenus pires que les maudits patrons. Puis moi, ce qui me jette le plus à terre, c'est qu'ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte.
Non, absolument pas.
Alors que quand
ils ont dénoncé du bout des lèvres, mais en fait, ils n'ont même pas dénoncé.
Ils n'ont pas dénoncé.
Ils se sont distancés. Mais dénoncer, Stine. Mettez vos culottes.
Ils sont pas capables.
Ou encore, ils trouvent ça drôle.
Ça, je te dis.
Pensez plus ça.
Gênant.
Selon CBC, on nommerait demain la prochaine gouverneure générale au fédéral. C'est donc des informations que cette chaîne nationale-là a apprises. Selon plusieurs sources qu'ils ont eues, on aurait la prochaine personne qui va succéder à Mary Simon. Mary Simon a fait jaser énormément parce qu'elle ne parlait pas français. Et on a d'ores et déjà assuré que la nouvelle personne parlerait et anglais et français. Elle avait suivi plus de 300 heures de cours de français.
Ben, on les a payés. Ça veut pas dire qu'elle les a suivis, là.
Ouais, c'est plus sûr.
Ouais,
hein. Peut-être les mêmes cours que Michael Rousseau de Air Canada.
Moi, j'ai deux enfants chez nous, là. Après une heure par semaine d'anglais depuis 2 ans, sont quasiment bilingues. Fait, je me dis, si les enfants Gravel sont capables de le faire, quelqu'un adulte, que tu sois boss de Air Canada ou que tu sois gouverneur général, avec un petit peu d'effort, t'es capable.
C'est drôle, j'ai rencontré en fin de semaine, à l'anniversaire d'une nièce de mon amoureux, une fille qui a immigré ici il y a quelques années, une Italienne, qui ne parlait pas un maudit mot français.
Mm-hmm.
Puis j'ai eu cette discussion-là avec mon amoureux parce qu'en la rencontrant en fin de semaine, puis en rencontrant son chum, puis en réalisant qu'eux autres se sont rencontrés en Italie, puis bon, elle a décidé de venir ici, puis ont fondé une famille, puis tout, tu sais.
Attends un peu, elle était en Italie, puis c'est elle qui a décidé de venir ici.
Je sais, c'est quelque chose que j'arrête pas de me répéter.
C'est vraiment un mauvais placement familial.
Ils sont vraiment en amour.
Oui, j'imagine.
Ils se sont mariés en Sicile. mais non, ils habitent bel et bien au Québec et parlent parfaitement français. Elle s'est juste donné le coup de pied pour se dire qu'elle voulait faire partie de la culture québécoise à 100%. Puis, je veux dire,
j'aurais dit.
Elle a un petit accent mais cute, là, mais je veux dire, tu pourrais pas dire. Là.
Je sais que c'est à côté du point, mais moi, j'aurais dit, mon amour, laisse faire, là, je vais apprendre l'italiano. <là." rire>
Mon point, c'était de dire que quand tu veux, c'est bon.
Absolument.
Voyons.
Absolument. Puis surtout quand tu... tu sais, c'est tellement pas un gros sacrifice qu'on te demande pour gagner des millions et des millions de dollars.
Non.
Tu sais...
C'est le fun, à la limite.
Tu sais, pour un site de revente de billets, il y a 2 joueurs vedettes du Canadien qui ont appris 3 mots de français. Ils sont presque crédibles.
Presque. Ben, faites pas le saut si vous allez à la poste, vous allez recevoir votre fameuse lettre de recensement parce que le recensement canadien débute aujourd'hui partout au pays. C'est obligatoire. de répondre au recensement. On fait ça 5 ans.
OK, c'est ça, j'allais dire. Il y a une couple d'années, ils venaient cogner chez vous quand tu ne l'avais pas rempli.
Absolument, puis ça va être encore ça cette année. Ça peut aller jusqu'à une amende de 500 $ si parfois tu ne réponds pas au recensement. À base, le recensement, c'est ce qui permet... J'allais dire au gouvernement, mais aux institutions en général, d'avoir un portrait juste de la population. On est rendu combien? La population a quel âge? A quel statut? Etc., etc. Puis ensuite de ça, quand on a besoin de faire, par exemple, des investissements, des évaluations, on est capable de le faire avec des chiffres plus tangibles que les extrapolations qu'on peut avoir.
C'est-tu un concours que tu peux perdre encore, ça, genre tomber sa version longue?
Oui, tu peux perdre le concours.
Ah, ça gosse.
Mais moi, je veux tomber dessus. Je suis curieuse. Parce qu'il y a effectivement deux versions du recensement.
J'en reçois une version longue. Promis, je te le donne.
Tu peux pas.
Ah, changer le sticker là-dessus.
Non, tu peux pas changer le sticker.
Non, mais tu veux tellement le faire, puis moi, je veux tellement pas le faire.
En fait, vous allez recevoir.
Fais ça pour le bien du Canada. Vive le Canada!
Vous allez recevoir une lettre d'invitation avec des instructions pour remplir le questionnaire en ligne. On peut aussi le remplir par papier ou par téléphone, mais pour ça, il faut faire la demande. Mais maintenant, c'est rendu uniquement en ligne. Comme je vous mentionnais, la participation est obligatoire, puis il y a effectivement deux questionnaires. Le trois quarts des gens vont recevoir le questionnaire court. C'est 10 questions. Âge, sexe, langue, ce genre d'affaires-là, très, très, très de base.
Est-ce qu'on a tous les choix de réponse concernant le sexe maintenant?
En principe, tu es censé tout avoir.
Ça, c'est fucking drôle.
Oui, tu es censé tout avoir. Puis, pour ce qui est du long, c'est donc la balance, le quart des autres qui vont le recevoir. C'est une 60aine de questions pour avoir un portrait un petit peu plus net des situations sociales et économiques. Il y a des nouveautés en 2026. On s'est rendu compte que côté orientation sexuelle, on n'était pas tout à fait là. Fait qu'on a ajusté le tir. Il y a des questions de santé générale et deux questions sur l'itinérance. Puis là, vous allez me dire, oui, mais les itinérants n'ont pas d'adresse. Ce qu'on essaie de calculer, c'est les gens qui se sont retrouvés sans adresse à un moment donné ou à un autre parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une maison, pas les moyens de se payer un logement, puis qui sont allés vivre chez des proches, mais qui ont réussi à se replacer. Fait qu'on veut estimer ça peut ressembler à quel pourcentage.
Vois-tu le fonctionnaire fédéral qui se promène sur Saint-Joseph qui essaye de convaincre deux, trois itinérants complètement défoncés de répondre au recensement?
C'est pas Audrey Pinchot non plus, elle n'est pas itinérante. Là.
Non, c'est ça. Non. C'est drôle parce que tu as dit que c'était obligatoire. Pendant deux secondes, je me suis dit, mon adresse est rendue où? Il faudrait que je sache.
Audrey, j'ai pensé à toi un matin quand je préparais cette nouvelle-là.
Hey, concernant l'orientation sexuelle, on est rendu à combien de choix de réponse?
Je sais pas.
22, 26?
Je sais pas.
27?
Non, mais je pense que c'est masculin et féminin, non-binaire et non-genré.
Ça, c'est les genres, mais les orientations?
Ouais.
Oh, Seigneur!
T'étais pas à la même place?
Oh, non, attends, on n'était pas à la même place. Oh. Ben là, il y en a énormément, mais là, c'est parce que t'es rendu avec des noms qui veulent dire que t'es plusieurs choses aussi, là, tu sais.
Oui, ben, regarde, le premier qui reçoit son recensement, on va l'amener, OK? Juste pour regarder les choix de réponse.
Oui, on consultera en ligne.
Oui, il faut le checker absolument.
Les résultats qui, eux, sont diffusés au début de 2027, puis habituellement, en fait... Il y a un calendrier d'à peu près 18 mois où on sort tout par tranche. Tout ça devient public parce qu'il n'y a pas juste les gouvernements qui s'en servent. Mettons, tu es une entreprise qui veut s'établir dans un marché ou qui veut développer quoi que ce soit, ça permet d'avoir de bons indicateurs beaucoup plus tangibles pour être capable de prendre des décisions. Puis il y a 30 000 agents recenseurs qui, eux autres, doivent assurer le suivi en personne ou par téléphone auprès de ceux qui n'auraient pas répondu avant la fin du mois de mai. Fait que si vous êtes du type à ne pas aller au courrier, peut-être faire un petit effort cette semaine pour aller chercher votre lettre.
Hey, j'ai une demande spéciale en terminant ce bulletin de nouvelles. Il est 4h20, 4:20. L'heure me semble idéale pour parler de gobelins.
Bon.
Tu sais quoi, des gobelins?
Oui. Pourquoi on parle de gobelins?
Ben, il n'y a pas de raison, mais moi, j'aime beaucoup les gobelins. Fait que j'aime ça en parler à heure de grande écoute. Tu comprends? J'ai une fascination pour les gobelins. T'as-tu des questions à me poser sur les gobelins?
Pourquoi aimes-tu les gobelins?
Hey, je suis tellement content que tu m'en parles. Moi, j'adore les gobelins. Tu m'aurais parlé de hockey, je t'aurais parlé de gobelins. Je t'aurais inventé...
Toutes tes références auraient été à gobelins?
Oui. Tu m'aurais posé la question, est-ce que le Canadien a des chances de battre les Sabres de Buffalo? Puis je t'aurais parlé de la guerre des gobelins.
Fais une sorte de petite fixation.
T'aurais pu me demander des questions politiques. Je t'aurais parlé de gobelins. J'adore les gobelins. Je suis obsédé par les gobelins.
Mais moi, j'ai une question pour toi.
Ouais.
Est-ce que t'es ChatGPT?
Peut-être.
Merci à TVA qui a traduit un texte du Wall Street Journal. Une intelligence artificielle, ça se dresse, si on veut. On essaye de groomer ça le plus possible. On entraîne une intelligence artificielle, on tente de lui donner une personnalité. Et ce que le Wall Street Journal a découvert, c'est que depuis un certain temps, ChatGPT, quand tu y parlais, faisait constamment des références à des gobelins, des gobelins, des trolls, des gremlins, des créatures fantastiques.
On a créé une intelligence artificielle avec une faille obsessive sur les gobelins.
Ben,
et ce qu'ils ont appris,
c'est drôle,
c'est que OpenAI, la société qui s'en occupe, puis ses programmeurs, ils ont essayé d'avoir d'établir une personnalité qui était nerd, ludique et créative pour ChatGPT. Okay. Mais comme l'intelligence artificielle, on le sait, dans le futur, on va perdre le contrôle. Elle avait déjà perdu le contrôle sur son côté beaucoup trop nerd. Et semble-t-il que ça a un peu dérapé au point où le robot conversationnel de chat s'était mis à parler de gobelins à plusieurs internautes sans qu'il y ait de lien avec la discussion entamée par ceux-ci.
C'est quoi la météo aujourd'hui, ChatGPT? Ah, on annonce 60 % de probabilité d'averse. C'est pas une journée pour sortir un gobelin.
Mais moi, c'est tombé.
Hey, je te le dis, je suis tombée sur le texte de TVA tantôt, puis je te lisais, je fais, mais c'est-tu arrivé pour vrai? Ça
vous est-tu déjà arrivé de parler à quelqu'un qui a une obsession, mais sans parler de son obsession, il se vend tout seul?
Ouais. Ben, toi, avec la lutte.
Non, mais.
Il n'est pas si pire dans les références.
Okay, c'est peut-être
Dans les premières années qu'on travaillait ensemble.
Il y avait peut-être plus de références de lutte.
C'est peut-être un bon exemple. Mais moi, puis Véro, on a travaillé avec quelqu'un qui aime beaucoup les pieds. Puis il pouvait pas s'empêcher d'en parler. Okay. Tu sais, hey, c'est donc bien beau les sandales que t'as ce matin. C'est,
OK, à ce point-là, il y avait des
oui.
OK,
ben, c'est de cette personne-là que tu parlais, Véro.
De comment?
La personne qui aimait beaucoup les pieds.
Ah, mon Dieu.
Tu sais, elle jamais dit, hey, moi, je trippe ses pieds. Tu sais, moi, je te le dis, moi, je trippe sa lutte.
C'est vraiment beau ta chaussure, je peux te toucher?
Ouais, mais c'est ça, quelqu'un qui te le dit pas, moi, je trippe ses pieds, mais. Tu vas avoir des souliers neufs, il va beaucoup t'en parler, là. C'est un neuf, ça. C'est un bon neuf, ça. Ouais, c'est.
Mais voyons donc.
Ah oui, hey, ça te fait bien, ces petites sandales-là. Là. Tabarnouche, ça te fait un beau pied.
OK. Ben non,
tu comprends-tu la différence entre les deux?
Oui, j'ai jamais côtoyé quelqu'un dans ma vie. Je pense qu'il y avait une obsession qui était visible.
Fait que ChatGPT a une obsession. même si tu ne parles pas de gobelins, il va te parler de gobelins.
Je trouve ça cute.
J'aurais aimé qu'il laisse.
C'est quand même drôle.
C'est quand même cocasse.
Moi, je l'aurais laissé, mais en avertissant. Attention, il trippe ses gobelins.
C'est sûr que quelqu'un a fait la joke, pour vrai. C'est sûr que ça vient de quelqu'un qui a fait la blague.
Hey, je veux revenir sur le recensement. Je retire mes propos. Je le veux plus long. Il y a plein de monde qui nous ont écrit qu'ils l'ont déjà eu long, puis qu'il semble-t-il que c'est absolument terrible, puis tu finis par te prendre la tête.
Ouais, oui, c'est vraiment long pour vrai, là.
Mais c'est 60 questions, même. Je me dis 60 questions, c'est pas si pire que ça, là.
Ben regarde, mec, on te trouve un long, là. On va te trouver un code d'accès, là. On va t'en donner un, là. Pour pire, t'en rempliras deux.
C'est super, on va frauder le recensement.
Ben non!
Les stats de l'avenir du Canada vont être entre nos mains, Denis!
Absolument pas, parce qu'on échange. Fait
je
que
m'identifie comme un gobelin.
Ben, tu vas pouvoir.
Mais moi, j'avais aimé ça que la petite madame elle débarque chez nous.
Oh, toi, ça te faisait quelqu'un avec qui jaser.
Ben non, mais je veux dire, elle m'a toute posé ses questions. C'était comme une entrevue. Puis,
c'était le fun.
T'avais ses réponses. Ben, c'était bien plus le fun que d'être pogné devant mon ordi pour le remplir.
Non, mais tu te rends-tu compte à quel point tu nous coûtes cher? Si les gens répondaient, on n'aurait pas besoin de 30 000 personnes pour faire le tour.
T'as pas tort. Je te donne raison.
J'ai eu droit à la version longue du recensement, c'est horrible. On a bien eu du plaisir quand j'ai répondu à une question devant ma blonde et mon garçon de 7 ans. Comment vous identifiez-vous? J'ai répondu aujourd'hui que je me sentais comme une poule.
Ah, mon Dieu, c'est niaiseux, ça.
Poule de luxe?
Poule de luxe, peut-être. Peut-être moyen de payer moins d'impôts dans ce temps-là, je ne sais pas. Ben, du monde qui s'identifie comme des partisans du Canadien de Montréal aussi aujourd'hui, là. Qu'ils ne sont pas nécessairement dans la vie de tous les jours. Hey, 16h26, vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour.
Gravel. It's a great pleasure to have all of you here today. Gravel dans le retour avec Denis, Véro et Audrey.
Il est 16h33, à Boulevard, dans le retour, dans la circulation. Audrey, ça se passe comment?
Ça se passe pas bien. Là. On est vraiment dans l'heure un peu plus crunchy. J'essayais de rendre ça positif, mais il n'y a pas vraiment de positif. Si vous êtes sur la capitale en ce moment, direction Est, c'est quand même lourd entre Henri IV et Robert Bourassa. Robert Bourassa, direction Nord, ça se passe entre Charest et la capitale. Si vous êtes sur Charest, direction Est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa, surtout qu'on observe un ralentissement. La capitale, direction Ouest, c'est entre Henri Bourassa et Laurentienne. Dans le coin de Val-Bélair, sur Henri IV Nord, devant l'avenue industrielle, il y a un ralentissement à prévoir également. Si vous êtes devant la base militaire dans le coin de Shannon, La route de la Bravoure dans les deux directions, il y avait un incident un peu plus tôt, là, bien, il y a toujours ce ralentissement. Route de Fossambault entre des Érables et de la Jean-Cartier, c'est pas terminé. Henri IV Sud, ça se passe de chemin Sainte-Foy au pont. Pareil pour Duplessis Sud, chemin Sainte-Foy au pont La Porte, c'est au ralenti. Et la 20 direction ouest, c'est à la hauteur de chemin des Îles surtout. Donc, c'est quand même les ralentissements habituels. Évidemment, s'il y a autre chose, 88-971-102 texto.
Le moment semble bien choisi pour aborder ensemble l'actualité internationale, alors qu'à la grandeur de la planète, on a recommencé à se poser la question, est-ce que le cessez-le-feu a été compromis du côté du détroit d'Ormuz dans le secteur de l'Iran?
Ah, puis il y a plein d'affaires qu'on comprend pas. Le Congrès était censé devoir autoriser après 60 jours de conflit. Là, on essaye de bypasser ça, ça ouvre, ça ferme. Des mises à jour sont toujours nécessaires.
C'est pourquoi on va aller rejoindre avec beaucoup de plaisir Éric Sauvé, consultant en sécurité et vétéran des Forces armées canadiennes. Éric Sauvé, salut!
Oui, salut à toi.
Mon Dieu, plus ça change, plus c'est pareil. Il me semble qu'aux deux jours, on se demande si le cessez-le-feu est scrap entre l'Iran et les États-Unis.
Là, on devait escorter des bateaux en dehors de là. Là, ça n'a plus l'air de fonctionner. Éric, je ne comprends plus rien.
Bien là, je te dirais que tantôt Audrey faisait la circulation puis elle disait que ça allait pas très bien, mais c'est un peu la même chose dans le détroit d'Ormuz. Les Américains ont mis en place une opération, l'opération Freedom, qui sert à faire sortir les navires et non pas les faire rentrer dans le golfe Persique. Ça s'est pas déroulé exactement comme prévu. On avait un cessez-le-feu en place depuis le 7 avril, ce qui faisait en sorte que Donald Trump et Pete Hegseth disaient au Congrès que justement, il n'y avait pas à demander d'autorisation de 60 jours parce qu'il n'y a pas de guerre depuis le 7 avril. Cependant, un blocus naval, c'est une opération armée, c'est considéré comme un conflit armé, donc ils sont encore en guerre. Là, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a eu un échange de tirs entre les Américains et les Iraniens. On sait que les Américains ont coulé 7 petits navires iraniens, des vedettes rapides utilisées par les gardiens de la Révolution. Mais l'autre problème, c'est que l'Iran ne s'est pas contenté seulement de frapper dans le détroit, mais ils ont frappé les Émirats arabes unis, ils ont frappé un port. Il y a eu un feu assez important, un drone qui est passé à travers la défense antiaérienne. Donc, ils se remettent finalement à frapper les autres pays du Golfe. Donc, on peut dire en ce moment que le cessez-le-feu là, ne tient plus du tout.
C'est un début d'escalade? C'est-tu le recommencement de quelque chose où on va parler d'incidents isolés?
On ne pourra pas le savoir avant les prochaines 24 heures, mais ça pourrait possiblement être le début d'une nouvelle escalade. Parce que là, ce qu'on sait de la façon de faire des Iraniens, c'est que les gardiens de la Révolution sont vraiment plus en charge que le fils Khamenei, qui finalement fait juste comme, dans le fond, cautionner leurs décisions. Eux sont beaucoup plus hardcore que l'ancien chef. Et puis, ils veulent en découdre avec les Américains. Donc, j'ai l'impression que si les Américains persistent à vouloir passer à travers le détroit, ce qui est la carte maîtresse de l'Iran, il pourrait continuer à frapper.
Puis ça, cette opération militaire-là, c'est pour sortir les tankers du détroit, puis l'Iran n'a pas approuvé ça, c'est ça?
Non, l'Iran n'a pas approuvé. Ils veulent les sortir, mais ce qu'ils ont dit, c'est que, tu sais, le président ne donne jamais de détails, mais le commandement central qui s'occupe des forces a dit que ce n'était pas une opération d'escorte de convoi un à un, c'est une protection. Mais le détroit est extrêmement étroit, à 39 km dans son point le moins large. Donc, la capacité de réaction ou le temps de réaction est très, très minimal s'il y a un problème. En ce moment, on sait que les compagnies pétrolières et les cargos ne vont pas nécessairement s'aventurer à moins que les assureurs les autorisent. Les assureurs qui sont presque tous à Londres.
Okay.
Et aussi que l'Iran donne le feu vert. L'Iran n'a pas donné le feu vert. En fait, c'est plus un feu actif de tir qu'ils ont donné pour l'instant. Fait que là, en ce moment, je pense que les compagnies pétrolières ne vont pas s'aventurer dans le détroit malgré l'insistance des États-Unis.
Tu as parlé des assureurs. J'avais pas pensé à ça, mais pas pantoute. Pas d'assurance, les pétroliers ne bougent pas. Les assureurs, ils demandent quoi, eux autres? Qu'un cessez-le-feu soit respecté? La fin du conflit, c'est...
Bien, les assureurs, ils demandent beaucoup d'argent, premièrement. Qu'est-ce qu'ils font normalement, c'est que les assureurs à Londres, il y a deux sortes d'assurances. Il y a l'assurance normale, il y a l'assurance en temps de guerre donnée par Lloyd's. L'assurance est environ 0,25% du contenu d'un pétrolier. En ce moment, elle a monté à 1 à 3%. Ça se chiffre en millions de dollars. Si les assureurs ne veulent pas assurer, il n'y a personne qui bouge, c'est certain. Ils peuvent monter à 3, 4, 5%. Mais en ce moment, sachant qu'il y a des tirs iraniens, il n'y a pas un assureur qui l'autorise. C'est certain. Parce qu'ils vont perdre leur argent.
J'imagine. Puis là, à partir du moment où les tirs reprennent, ben, il n'y a pas nécessairement de sortie ou d'avenue possible. Là. Je veux dire, on pouvait discuter peut-être des possibilités en fin de semaine, mais là, si ça recommence à tirer des deux bords, on n'a pas fini. Là.
Non, c'est ça. Puis j'ai lu ce matin, le commandement central disait qu'il y avait des navires de au moins 80 pays différents qui sont situés à l'embouchure. Et ils communiquent avec eux pour les enjoindre à traverser. Mais ce n'est pas des navires de guerre. Ces gens-là ne sont pas là pour se mettre en danger pour rien. Ils ont probablement des marins qui viennent de plusieurs pays, qui sont payés au salaire minimum. Il n'y a personne qui a envie de se lancer dans cette aventure-là.
Et pendant qu'on essaie de se repositionner à l'intérieur du détroit de part et d'autre, ben, il y a des repositionnements politiques qui s'effectuent aussi. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui commence à cruiser l'Union européenne, ni plus ni moins. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
Ou c'est l'inverse, je ne sais pas de quel bord ça se passe. Ouais.
Ben, je pense que c'est un peu de la bromance des deux côtés. Ouais, dans le fond, le premier ministre Carney a très bien fait à Davos. Son discours à Davos a fait le tour du monde, a été propagé partout.
Les économies moyennes qui devaient se rassembler, entre autres. Là.
Exactement. Et aussi, ça fait beaucoup de différence entre écouter Donald Trump, qui n'arrive pas à faire une phrase complète, et un premier ministre qui dit « j'ai fait mon discours moi-même », et puis tout le monde a finalement la mâchoire à terre par la suite. Donc, il est très courtisé. On sait que Carney essaie de diversifier nos partenariats économiques. Il est allé en Chine il y a quand même plusieurs mois, ce qui n'a pas du tout plu à la Maison-Blanche, ce qui n'a pas du tout plu à certains Canadiens non plus, parce que la Chine, c'est quand même l'ennemi à long terme. Mais ce qu'il veut faire, c'est de diversifier les partenariats avec l'Asie, avec l'Europe. Et ça tombe bien parce que l'Europe veut le faire aussi. Parce qu'en ce moment, il n'y a presque plus aucune confiance de ce qui vient de Washington. Les gens ne pensent pas que Trump va honorer ses accords, les contrats qu'ils ont en place. Alors, tout le monde se cherche d'autres partenaires. La Chine est la deuxième plus grosse économie mondiale et l'Europe, en tant que telle, est une énorme économie. Donc c'est normal que le Canada se tourne vers là. Est-ce qu'on va devenir membre de l'Union européenne? Je dirais qu'il y a loin de la coupe aux lèvres.
Ouais, puis la question se pose, là. Je veux dire, logiquement, si je regarde une carte du monde...
On n'est pas en Europe.
On n'est pas supposé d'être membre de l'Union européenne. C'est quoi le plus loin, concrètement, qu'on peut aller là, dans cette négo-là?
Je vous dirais que Donald Trump considérait le Groenland comme faisant partie de l'Amérique.
Oui, donc, bon.
Ouais, mais il est très créatif, lui, dans sa géographie.
L'idéal, ce serait de ne pas le suivre, là.
Les Européens commencent à regarder vers l'Islande, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est assez compliqué. Il y a l'Union européenne, il y a l'espace Schengen, il y a la zone euro, il y avait l'Angleterre qui était sortie de là. Évidemment, géographiquement, on ne fait pas partie de tout ça. Par contre, on pourrait établir des partenariats avec eux. Mais se lancer complètement dans l'Union européenne, ça va prendre un gros débat au Canada parce que l'Union européenne gère l'immigration, gère les budgets et tout. Ça veut dire que le pouvoir central est plus à Ottawa, mais à Bruxelles. Donc, c'est vraiment, c'est une très, très grosse étape. Là. On est loin de là pour l'instant.
Puis, pendant que les téléphones se multiplient entre le premier ministre canadien, l'Union européenne et même la Chine, ben Trump, lui, son body, c'est Poutine, ça a de l'air.
Trump aime beaucoup parler à Vladimir Poutine.
Ouais.
Il y a eu un décompte qui a été fait depuis le début de sa deuxième présidence. Il y a eu 12 appels. Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de gens qui font le transcript de ces appels-là. C'est arrivé par le passé que Trump aille rencontrer Vladimir Poutine et il y avait seulement un interprète du côté russe. Bon. Donc, il y a seulement Trump du côté américain qui sait qu'est-ce qui s'est dit. Le problème aussi, c'est que quand il raccroche, Trump est souvent convaincu de faire des choses qui ne sont pas très positives envers l'OTAN. Et la dernier événement en ligne, c'est qu'il a parlé de fermer, en fait, de retirer 5 000 troupes de l'Allemagne, 5 000 troupes, parce qu'il y a quand même des dizaines de milliers de troupes américaines en Europe. Trump, après avoir parlé à Poutine, a décidé d'en retirer 5 000 et aussi n'était pas très enchanté de ce que le chancelier allemand avait dit, disant que Trump était contrôlé par l'Iran.
Ouais, ben là, c'est ça, là. Trump, ses détracteurs l'accusent d'être la marionnette d'Israël. Là, il y en a qui vont l'accuser d'être la marionnette de Poutine si à chaque fois qu'il raccroche le téléphone, il prend des décisions qui ont l'air de plus servir Vladimir Poutine que d'autres choses, là.
Mais il faut quand même dire que c'est une première dans l'histoire des États-Unis. Depuis la guerre froide, depuis que le rideau de fer est tombé sur l'Union soviétique, il n'y a jamais un président américain qui a voulu se montrer près d'un dirigeant russe.
Ouais.
Surtout pas un dictateur à la Poutine, surtout pas quelqu'un qui envahit un pays souverain comme l'Ukraine. Clairement, on n'a jamais déroulé le tapis rouge, puis je le dis de façon physique, là, on l'a fait en Alaska quand Poutine est venu. Aucun président américain n'a déroulé le tapis rouge devant un chef russe. Et puis là, ben, c'est complètement le monde à l'envers avec ce qui se passe en ce moment.
Concrètement, Eric, s'il retire les troupes de l'Allemagne, qu'est-ce qui arrive?
Ce qui est comique là-dedans, c'est que c'est Trump qui se tire dans le pied parce que les bases en Allemagne et en Europe, c'est des bases avancées pour projeter par rapport à l'Afrique, par rapport au Moyen-Orient, autour de l'Europe. Donc, c'est l'armée américaine qui se prive de bases stratégiques. Trump pense faire mal à l'Allemagne. Évidemment, ça fait le mal à l'Allemagne un peu parce que 5000 troupes, ça amène beaucoup d'économies dans la région, mais ça fait plus mal aux Américains que ça fait mal aux Allemands.
Que ce soit le Congrès américain ou que ce soit l'OTAN dans son entièreté, est-ce qu'on voit Trump comme un mal passager puis qu'après ça, on va reprendre business as usual
qu'on fait juste attendre que ça passe,
dans toutes les tensions internationales où on commence à penser que ça va être fragilisé, même passé le règne Donald Trump?
Le problème, c'est que le Congrès est complètement absent. Oui. Si Trump était remis en place par le Congrès, par la Chambre des représentants ou le Sénat, les gens auraient confiance envers le système américain. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a quelqu'un qui vise une dictature aux États-Unis, qui contrôle le législatif, il y a seulement le judiciaire qui ne contrôle pas en ce moment, encore en partie, il le contrôle. Mais les gens du Congrès s'indignent devant les médias, mais ne font absolument rien. Donc, la confiance est perdue. On sait que le problème, c'est Trump, mais on sait que le problème est systémique aussi, dans le sens que le système n'arrive pas à contrecarrer les désirs d'un président mercurial. Donc, la confiance va être très, très longue à rétablir, même après Trump, même si c'est un démocrate, si c'est pas J.D. Vance ou un autre. Ça va être difficile de croire que le système peut justement parer à une personne qui tente de le contrôler, comme on le voit en ce moment.
Le ménage n'est pas fini, hein? Éric Sauvé, encore une fois, très intéressant. Merci beaucoup.
Merci, à la prochaine.
Bye-bye. Éric Sauvé, qui est consultant sécurité et défense, vétéran des Forces armées canadiennes. Toujours intéressant sur pas mal tout ce qui se brasse dans l'actualité internationale. C'est drôle, hein? Pendant tout le temps de la conversation avec Éric, j'avais un œil sur LCN.
Des fois, qu'il sortirait autre chose.
Puis le bulletin de nouvelles, c'était ça. C'était l'actualité avec Mark Carney, l'Union européenne. Ouais. Le cessez-le-feu qui est peut-être compromis, encore une fois, du côté de l'Iran et des États-Unis. Mais je trouve ça le fun qu'on prenne le temps de s'expliquer, c'est tout ce qui se passe autour de nous autres.
Parce qu'on est loin de l'époque, entre autres, si on parle de l'Iran et des États-Unis, on est loin de l'époque où ce qui sortait de la Maison-Blanche, c'était, sans dire du factuel, c'était un message clair. Mm-hmm. Là, t'as l'impression que c'est des conférences de presse, des impromptus de presse à tout bout de champ, départager le vrai du faux, qui dit quoi. Ah, c'est capoté, je trouve ça vraiment particulier.
Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que ça a été très long avant que la bourse arrête d'être influencée par toutes les déclarations du matin de Donald Trump, alors que depuis un bout, on se rendait compte qu'il disait n'importe quoi puis son contraire.
Bien, c'est pour ça qu'il y en a qui estiment qu'il y a peut-être eu des délits d'initié à travers tout ça.
Mais oui.
T'sais, on a parlé beaucoup de polymarket à un moment donné, c'est des parieurs sur l'actualité en général.
Oui.
T'sais, fut un temps où tout ce qui existait, c'était les fameux Deadpool,
oui.
Où, avec très mauvais goût, on pariait sur les dates potentielles de décès de personnalités qui arrivaient à un âge certain.
C'était
ou
de mauvais goût.
De
c'était de mauvais goût, mais c'est moins pire que d'aller à une manif syndicale avec une guillotine.
Vu de même, oui. Ouais, tandis que là, maintenant, c'est des paris sur des événements d'actualité, sur de la météo, sur le réchauffement climatique, sur tout ce que vous voulez. Puis là, quand c'est rendu que tu es capable de faire des corrélation entre des gens qui ont réussi à faire de l'argent sur Polymarket, puis des déclarations de Trump et leur effet sur la bourse, là, t'es comme, hey, on est-tu en train de s'en faire passer des petites vitres puis on n'est pas capable de le prouver puis de le démontrer?
On vit dans une drôle d'époque. Une chance qu'on a le hockey, tabarnouche. 16h48, faut bien changer les idées une fois de temps en temps. Hein. On s'arrête pas longtemps. S'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, c'est le 418-971-1021.
Pour joindre l'équipe de Gravel avec Denis, Véro et Audrey. Je suis fan de vous.
Ah, mais moi aussi, je suis fan de moi.
Boulevard 101.
16h54, boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Merci d'être des nôtres. Un accident qui a frappé fort du côté de Beauport, puis il y a deux blessés, c'est des enfants, Véro.
Oui, des enfants, on estime d'âge primaire. Puis d'ailleurs, si vous allez circuler dans le secteur du boulevard des Chutes, là, à la hauteur de la rue Francheville, vous allez voir qu'il y a un périmètre de sécurité qui a été fait. Ça peut compliquer la circulation. Puis les informations qu'on a jusqu'à maintenant, puis les détails des policiers font qu'on n'est pas capable d'expliquer ce qui s'est passé. On sait qu'il y a deux véhicules qui ont été impliqués dans une violente collision, mais on sait aussi que les deux enfants, dont un dont on craint pour l'état de santé à ce moment-ci, étaient des piétons. On est à proximité d'une école primaire. Il était 4h moins quart. C'est l'heure où les jeunes retournaient à la maison.
J'ai vu les photos. Les
ça frappait très fort.
Les
là.
Deux chars qui sont rentrés dedans, ça a frappé très fort. Puis clairement, il y en a un des deux qui a revolé, puis ça a fait en sorte que ça a fauché des piétons,
ça
non?
Ça pourrait être un des deux véhicules qui a carrément fauché les piétons aussi. C'est pour ça que je te dis qu'actuellement, il y a une enquête collision qui est en train de se tenir pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a différents témoins qui vont être rencontrés par les policiers, mais ça a fessé plusieurs ambulances qui ont été demandées sur place. On a vu qu'il y avait un camion de pompiers aussi sous différentes images. Donc, secteur boulevard des Chutes, près de la rue Francheville. Éric. Accident qui s'est produit un peu avant 16h cet après-midi.
La première étape pour faire face à un problème, c'est de reconnaître qu'il existe.
Ouais.
Ils disent ça, hein, entre autres, chez les alcooliques anonymes. Là, tu sais, la première étape, c'est de reconnaître que tu as un problème et que tu es faible devant ce problème-là puis que tu recherches des solutions. C'est pas phrasé de même, mais en gros, il me semble que c'est ça que ça veut dire. Fait que vous êtes probablement rassurés de voir que le juge en chef au Québec vous dit que des peines bonbons, ça n'existe pas. Fait que on n'est même pas rendu. C'est beaucoup de reportages très intéressants d'ailleurs qui ont été faits dans le Journal de Québec en fin de semaine sur les peines bonbons. Mais le bout, moi, qui m'a fâché le plus, c'est l'entrevue avec le juge en chef de la Cour du Québec qui dit « Arrêtez de dire ça, des peines bonbons, ça n'existe pas. »
Sinon, il y a de quoi qu'on n'a pas compris ou on manque définitivement de jugement.
C'est parce que même les chiffres prouvent que de plus en plus, il y en a des peines bonbons au Québec. Ça, c'est un exemple parmi d'autres là, qui était dans les textes d'en fin de semaine. Au Québec, le nombre de conjoints violents condamnés à la sentence la moins punitive du code criminel a plus que doublé en 5 ans, passant de 778 en 2020 à 1823 en 2025. Et pourquoi on y va avec la peine la plus basse? Il y a plein de raisons. Mais les raisons, c'est tout le temps de donner un break à l'agresseur.
Parce que quoi, un break à l'agresseur?
Bien, par exemple, la sentence la plus basse dans le cas d'un crime violent, ça permet à un accusé reconnu coupable ou qui reconnaît sa culpabilité dans le cadre d'une négociation, par exemple, où souvent la victime n'est pas impliquée.
Ouais.
Ça permet d'éviter l'inscription d'un casier judiciaire.
Tu as été violent, tu mérites un casier judiciaire.
Ben, regarde, veux-tu que je te raconte des histoires qui étaient dans le journal en fin de semaine?
Tu vas me mettre en maudit.
Oui, je le sais. Mais ça n'existe pas des peines bonbons, le juge en chef vous le dit, là. La raison dans cette histoire-là, c'est pour obtenir un contrat avec un gros employeur, OK? Kevin Boily a prononcé « Tu dois mourir avec moi » à sa copine en juillet 2023. Le jeune homme de 23 ans a tenté de l'étrangler une première fois. La victime a voulu fuir, mais Boily l'a plaqué au sol et l'a de nouveau étranglé. Une heure après son arrestation, Kevin Boily a dit à sa mère qu'il allait faire son premier meurtre. « J'aimerais vraiment revivre dans une certitude que je ne suis plus en danger. Mon rêve actuellement est de pouvoir enfin sortir seul et sans crainte », avait affirmé la victime dont l'identité est protégée. À cette époque, l'accusé était dépressif, suicidaire. Il avait un problème de consommation de cocaïne. Selon le juge Richard Daou, la responsabilité de l'accusé est ainsi atténué par sa problématique de santé mentale, et même s'il est fragile aujourd'hui, Kevin Boily a tout fait pour arrêter la consommation. La couronne réclamait 3 mois de prison, mais pour le juge, un casier judiciaire pourrait nuire à la carrière d'opérateur de machinerie lourde de l'agresseur, puisqu'un important employeur de la région vérifie les antécédents criminels.
J'espère qu'il vérifie Google aussi.
La poursuite a porté le dossier en appel et elle a perdu. La Cour suprême va se pencher sur ce cas-là dans les prochains mois. Mais pour que le gars puisse avoir une job avec un des gros employeurs de la région. Le juge a décidé, puis c'est un non-facteur, là. Le gars a étranglé son ex.
Puis comprenez-moi bien, je crois que certains cas peuvent être réhabilités. Mais pour être réhabilité, faut quand même que tu aies une peine puis des conséquences. T'sais, on dit que le système de justice, c'est oui, la personne qui est reconnue coupable ou qui plaide coupable, qui a une peine, mais aussi on veut que ça ait un effet dissuasif dans le reste de la société.
C'est ça le but.
Je m'excuse, là, mais la fille qui est encore terrorisée à ce moment-ci, là, elle ne sera pas apaisée par une peine comme ça. Là.
Mais tu sais, moi, je pense que c'est le fait que nos prisons sont surchargées, puis à un moment donné, tu n'as pas le choix d'agir de cette façon-là.
C'est cave,
parce que
là.
Tu n'y arrives pas. C'est complètement cave. Moi, en fait, du moment où c'est un crime sur la personne, je vois pas comment on peut être clément.
Et pourtant, voulez-vous une autre belle histoire? Maxime Simard a agressé sexuellement sa conjointe à une dizaine de reprises. Il savait pourtant qu'elle était vulnérable, ayant déjà été victime d'exploitation sexuelle. La femme avait été touchée aux seins et aux fesses par-dessus ses vêtements alors qu'elle était endormie. L'homme cessait toutefois ses gestes lorsque sa conjointe lui signifiait d'arrêter. Un juge l'avait condamné à 8 mois de prison à purger chez lui, mais Simard a fait appel de la sentence et le plus haut tribunal du Québec lui a donné raison. Pourquoi? Sa méconnaissance de la notion de consentement a réduit sa responsabilité morale.
Quoi?
Et les gestes posés étaient de moindre gravité.
Quoi? Oh, c'est ça le truc? Je le savais pas, monsieur l'agent.
Ouais, ça marche. Et l'homme de 34 ans avait complété une formation pour devenir courtier immobilier. Sa demande de permis était suspendue en attendant le dénouement du dossier judiciaire. Donc, à partir du moment où on a donné la sentence la plus basse, ça a permis à monsieur de devenir courtier immobilier sur la Rive-Sud de Montréal.
On avait quel âge quand ils ont présenté la vidéo pour le consentement animé quand on était jeune? Le mon corps, ce n'est pas le tien.
Mm-hmm,
là.
Mm-hmm.
OK. Mais on l'a tout de suite à l'école?
C'est clairement pas pour tout le monde. Mais tu sais, l'idée et la notion de ne pas respecter une personne qui a été victime d'exploitation sexuelle dans son cheminement vers une sexualité où elle est à l'aise. Where is the fun in that? Il est où le fun là-dedans? Il y a des choses que je comprendrai jamais.
Moi, mon plus gros problème, c'est qu'au-delà du fait qu'on donne des peines bonbons, il peut aller chez le diable, le juge. Là. Moi, c'est le fait qu'on pense tellement pas aux victimes là-dedans.
Zéro.
Jamais.
T'sais, j'ai le sentiment que ça pèse comme pas dans la balance là, quand il y a des discussions. Là, que il a beau vouloir se réhabiliter, lui-là, là, puis il a beau vouloir faire des efforts. Les dommages sont faits sur une victime, puis des fois sur son entourage.
Une autre excuse que vous pouvez utiliser pour convaincre un juge que vous êtes de bonne foi, c'est de dire, chez nous, c'est pas de même qu'on faisait ça. Un préposé aux bénéficiaires avait agressé sexuellement une collègue de travail avec qui il entretenait une liaison depuis quelque temps. Avant de dormir avec lui, elle l'avait averti qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles, mais elle s'est réveillée avec les doigts de monsieur à l'intérieur d'elle-même. Chez moi, c'est comme ça, lui a répondu Sylvain Boris Atiendo Can't Stop lorsqu'elle l'a confronté. Selon lui, il s'agissait d'un malentendu sans mauvaise intention, un geste anodin qui a été mal interprété.
Ben oui, hein.
Mais la victime est depuis en arrêt de travail et se sent hyper vigilante et impuissante. Une première juge avait condamné l'homme, arrivé récemment au pays, à 6 mois de détention. Mais il a fait appel de la sentence et un deuxième juge a accepté de le laisser s'en sortir sans casier judiciaire, ce qui lui permet de rester au Canada sans enjeu avec l'immigration.
Ça aussi, ça me dérange parce qu'on garde du monde de même, mais on en jette d'autres dehors qui veulent donc bien s'établir chez nous.
Puis l'autre affaire, puisqu'ils disent qu'il ne savait pas longtemps qu'il était au pays, pas mal persuadé que d'autres immigrants qui venaient de la même place que lui savent bien faire les choses.
Non, mais c'est parce que dans mon pays, 3 doigts dans un vagin, c'est pas une
invasion
sexuelle.
Il n'y a pas de
pays
de même, là. Ça n'existe pas, ça.
C'est quoi ce pays-là?
Non, ça n'existe pas.
Excusez, je ris, mais c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle.
J'ai gardé le dessert pour la fin. C'est parce que moi, c'est la phrase qui me fait le plus de peine dans tout le processus judiciaire. Quand quelqu'un dit « si c'était à refaire, je porterais pas plainte ». Ça, moi, là, c'est à chaque fois que quelqu'un dit ça, on devrait tout arrêter puis se dire « Hey, là, il faut régler des problèmes. » Je vous rappelle qu'en fin de semaine, le juge en chef de la Cour du Québec, dans le Journal de Québec, a dit que des peines bonbons, ça n'existe pas. OK?
By the way, c'est pas à lui de décider qu'est-ce qu'on considère comme une peine bonbon ou pas, là.
Ex-conjoint militaire qui a pu éviter un casier judiciaire après avoir sauvagement étranglé son ex. Une femme du Saguenay qui regrette maintenant d'avoir porté plainte car d'autres hommes violents invoquent son cas maintenant pour s'en sortir, parce que c'est un cas qui maintenant fait jurisprudence.
Exact.
Elle dit, et je cite, « Avoir ce résultat, je me dis que j'ai fait ça pour rien. » La victime est sous le couvert de l'anonymat, la victime de David Derry Bédard, un militaire qui a été arrêté à Alma en avril 2020 pour une agression sur sa conjointe. Elle venait de rompre. Lui, il ne l'a pas pris. Il lui a sauté dessus, l'avait étranglé. Elle a dû se défendre pour se dégager de son emprise et se sauver. Il a d'abord été accusé de voies de fait graves. Il avait plaidé coupable à une accusation réduite de voies de fait par étranglement. Et c'est cet accord qui a permis à l'accusé de s'en sortir sans grandes conséquences, car il rend possible des peines plus clémentes. Fait que ta blonde t'annonce qu'elle te laisse, t'es pas capable d'accepter la nouvelle, tu y sautes dessus, tu l'étrangles, puis t'as pas de casier judiciaire. Pense à ça deux minutes.
L'autre affaire qui me tanne là-dedans, c'est le fait que ça donne un exemple de... Ben, c'est pas si grave, tu peux t'en sortir.
Exactement.
On parle qu'on n'arrête pas d'enrôler des plus jeunes dans des gangs de rue, dans la criminalité. Souvent avec ce discours-là de penser
que t'es mineur, c'est
ça,
exact.
Tu vas tomber dans un entrechaise qui fait que tu repars à zéro à 18. Mais même adulte, les peines sont tellement pas fortes que, à la limite, c'est une erreur de parcours, puis ta vie n'est pas gâchée, là.
Là, dans ce cas-là, s'il y avait un casier judiciaire, le monsieur pouvait plus être militaire. Mais en quoi ça concerne un juge? Moi, c'est ce bout-là que je suis pas capable de comprendre. Ça te concerne toi. Si t'es pas capable de te contrôler dans la vie...
Tu mérites de perdre ta job.
Ben, j'aime mieux que tu sois pas militaire
au
total tout. Ta blonde te dit « je te laisse » puis tu l'étrangles. Le problème, il est entre tes deux oreilles. Va le régler, puis idéalement, pas dans l'armée.
Puis tu sais, c'est à l'employeur de décider si oui ou non il trouve ça grave, le casier judiciaire de son employé.
J'imagine que c'est des conséquences plus ou moins graves, mais sachez qu'après l'agression, la femme a reçu un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique.
Je sais pas.
Elle est devenue anxieuse, crise de panique, elle peine à faire confiance aux gens.
En fait, non, mais pas attention à notre monde.
Le juge avait caractérisé le crime d'incident isolé, d'un geste irréfléchi et ponctuel et de courte durée. Une chance qu'il n'y avait pas de couteau dans les mains. Hein? On aurait pu plaider ça exactement de la même façon. Il y a vraiment des juges morons. Moi, c'est ce que je constate.
Il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait de, quand on parlait de meurtre entre conjoints, on parlait d'un crime passionnel. Là.
Puis la fin de semaine, t'as raison de le souligner, puis... Tu sais, ça monte haut là, dans la pyramide des juges. Parce que je vous le rappelle, le juge en chef, il dit que des peines bonbons, ça n'existe pas. Je viens de vous lire quatre histoires. Quatre histoires de monsieur violent qui perdent le contrôle et qui n'ont pas de casier judiciaire. Mmh. Trouvez-vous ça normal?
Ce que je trouve encore plus innocent, c'est quand tu donnes ces peines bonbons-là à ces gens-là, ça réduit la gravité des faits dans leur tête aussi.
Ben oui.
Fait, comment tu veux que cette personne-là apprenne. Se sente mal, réfléchisse, apprenne?
Le juge le dit. C'est un geste isolé. Le juge l'a dit, je viens d'un autre pays, je ne savais pas.
Ça te donne une excuse, ouais. Ça te donne vraiment une excuse au lieu de prendre sur tes épaules les gestes que tu as fait. Ah, ça m'écœure bien.
C'est comme si c'était à peine de l'imputabilité.
Ah.
Ah, c'est décourageant, toi.
Ouais, ben, je sais, mais c'est un peu le résumé de tout ce qu'on pouvait lire. Très bon dossier travaillé par les gens du bureau d'enquête du Journal de Québec. Pas jojo, pas positif, mais des fois, il faut... regardez la réalité en face, même si c'est pas le fun. Véro?
Je vais en rajouter une couche dans le pas le fun. Je vais vous rappeler l'accident qui a eu lieu dans le secteur de Beauport où il y a toujours des ralentissements. C'est sur le boulevard des Chutes près de la rue Francheville alors que deux enfants ont été blessés, dont un sérieusement, des victimes d'âge primaire. Celui blessé plus sévèrement était inconscient à l'arrivée des secours. Là, il y a différentes versions qui circulent sur ce qui s'est déroulé aux environs de 4 heures moins quart. C'est que soit il y a eu un violent impact entre deux véhicules ou encore il y a un véhicule qui aurait happé les enfants, mais il y a un autre véhicule impliqué là-dedans. On a fait une scène là-bas pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est bien passé. Donc, on a fermé ça à la circulation. On est en train de rencontrer des témoins. Il y a une école primaire qui est franchement pas loin.
Ouais.
C'est l'heure à laquelle les jeunes reviennent à la maison. Fait que c'est pas une belle situation dans le secteur de Beauport.
On s'arrête pas longtemps. On revient. Vous êtes à Boulevard.